vous venez de faire un premier jet d'un profil, n'est-ce pas? Et la question impertinente que j'ai à vous poser, c'est en quoi vous avez souffert en tentant de vraiment le faire bien comme il faut et de bien déterminer quels étaient tous les schémas. Oui, vous avez marqué, c'est un peu stressant ça quand même, n'est-ce pas?
Je suis pas stressée, là.
Alors, toi, tu n'es pas stressée parce que... Ah, donc, tu n'es pas stressée parce qu'il y avait la maîtresse dans la salle, c'est ça? Mais il y en a toujours une comme ça. Et voilà. Mais mettons, tu es élève dans la vie.
Je vais te poser des questions ensuite, d'ailleurs, c'est ce que j'ai
fait. Voilà. Et dans la vie où il n'y a pas la maîtresse à poser les questions, il y a toujours une autre chance pour corriger. Et de toute façon, on a notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Et donc, on s'en fout si on a raison la première fois parce qu'on va tester après. Et je vais vous dire, à chaque fois que je teste, je fais des ajustements. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que c'est moi avec mes schémas qui essaie d'écouter toi avec tes schémas. Et alors, ma première expérience, quand j'ai appris ça au début des années 80, à ce moment-là, je vivais, c'était à partir de 84, 85, on avait acheté un vieux corps de ferme en Normandie. Et je faisais souvent le retour en train pour aller travailler à Paris quand je travaillais à Paris. Je travaillais dans d'autres villes aussi. Et vous savez, dans les trains, il y a toujours les mêmes personnes qui s'assoient au même endroit dans les trains. Et Dieu t'aide si tu as pris le siège de quelqu'un, n'est-ce pas? Et bon, c'était tout le temps les mêmes gens. Alors, je venais d'apprendre cet outil, le Profil Lab, ça me paraissait intéressant. Donc, j'ai commencé à faire des profils des gens
dans le train.
Et c'est étrange. Mais tout le monde que je faisais le profil avait un schéma d'éloigneur. Comment c'est possible? J'ai dit, mais Roger, il a dit, c'est à peu près 40-40. Alors, comment ça se fait qu'il y a tout le monde qui a ce schéma d'éloigneur dans le contexte du travail? Comment est-ce possible? C'était mon schéma à moi. Et je cherchais à trouver ce que j'étais convaincue qu'il devait en avoir. C'est drôle, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je me suis mis à penser, mais bon, il faut avoir une méthode pour aller outre ses propres préjugés. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé la méthode scientifique, rigoureuse et empirique. C'est-à-dire, on coche tout et n'importe quoi, et après on teste en se servant d'une autre méthodologie. Parce que ça me paraît, c'est plus juste à ce moment-là. Donc, on s'en fout la première fois. Tu coches ce que tu entends. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est quand même une philosophie de la vie intéressante. Tu fais un essai et tu testes. Au lieu de me stresser à outrance, d'essayer d'avoir la réponse juste la toute première fois, je pourrais me déstresser. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire aussi. Et dire, je vais voir, je vais faire ce que je fais, je vais voir ce que ça donne, je teste après.
Tu testes le test.
Et voilà. Et c'est ce que je vais vous montrer comment faire, c'est de comment faire le test. Avant de faire ça, on va faire quelques exercices déguisement, parce que c'est en servant du langage qu'on teste. Donc, je vais vous faire quelques exercices de pratique linguistique et autres, de flexibilité linguistique, et après, je vais vous montrer comment tester. J'avais un autre commentaire aussi. Ah oui, le contexte est quand même important, parce que là, vous avez vu, avec Fabien, j'ai quand même passé du temps à savoir comment lui décrivait son contexte. Et pour moi, c'est plus porteur, et c'est à vous de vérifier ça avec les gens avec qui vous travaillez. Quand vous utilisez leurs mots justes, c'est plus réel pour eux. On parle de leur réalité, non pas de la réalité. Et donc, ça pourrait vous donner plus d'informations que de dire oh, « qu'est-ce que tu veux dans ton travail ?» C'est pour ça qu'on a pris quand même un peu de temps juste pour savoir comment la personne, elle, décrit son travail. Donc, tu fais quoi? Alors, avec ton exemple, c'est OK? Tu as dit thérapeute coach. Et alors, quand j'ai dit qu'est-ce qui est important pour toi en tant que thérapeute coach, tu as pris tes deux mains et tu as séparé les deux choses. Alors, ça me dit quelque chose. J'ai dit, est-ce que c'est deux choses séparées, thérapeute coach pour toi? Là, tu me dis oui. Donc, j'en ai pris un. Vous voyez? C'est deux contextes séparés. Moi, j'en sais rien. C'est la personne qui sait. D'accord? Mais je préfère utiliser ces mots, parce que c'est les mots que la personne utilise pour décrire ce qu'elle vit, elle. D'accord? Est-ce que ça répond un peu à quelques questions? Y a-t-il d'autres questions sur comment faire le premier jet de notre la phase devinée?
J'ai pas compris.
Vas-y.
J'ai pas compris la remarque que tu as faite tout à l'heure concernant justement ce que j'ai fait.
Quelle était la remarque?
C'était trop long.
Ah oui, tu avais un contexte qui était... Est-ce qu'on peut le lire là? Le contexte, c'était quoi? Tu peux me le lire à haute voix.
Gérontologue, formatrice, animatrice en communication avec les personnes très âgées, désorientées.
Ok, alors je vais pour reposer des questions. Alors, à ce moment-là, je suis obligée à chaque fois de dire, écoute, Tamar, en tant que géontologue, formatrice, animatrice en communication avec les personnes
très âgées
et désorientées, qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, ensuite, je vais dire, en parlant du fait que tu sois géontologue, formatrice, animatrice en communication avec des personnes âgées, pourquoi cela est-il important? Tu vois, c'est un peu mal commode.
D'accord.
Donc, je demande à la personne de résumer. Alors, un résumé de ça, pour toi, ce serait quoi? En tant que travail, tu fais... tu es formatrice.
Oui.
Ok. Ok, en tant que formatrice, qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi ceci est important pour toi en tant que formatrice? Tu vois, là, c'est plus commode. On a des gens qui font des paragraphes et des paragraphes de description, mais tu peux leur demander, en gros, c'est quoi? Et c'est comme ça, c'est eux qui choisissent les mots et pas toi. Parce que moi, je pourrais choisir gérontologue ou autre chose, mais ça ne te va pas. Oui, voilà. Alors, c'est la personne elle-même qui choisit. Vous voyez? Ok, c'est clarifié maintenant. Autre question?
Sur la question pour définir les options de procédure, là je t'ai Nathalie, elle me pose la question pourquoi je choisis ce métier de psychothérapeute, et moi je réponds parce que c'était évident.
Parce que c'est évident, oui.
Donc là, ça me semble un peu vaste. Comment tu peux reposer d'autres questions?
Donc, non, on n'a pas besoin de reposer d'autres questions, tu as répondu. C'est que tu n'étais pas hier, lorsqu'on a parlé de quels sont les indicateurs des deux schémas. C'est pour ça que j'aimerais vous faire référence et à la manuelle, et aussi, ici, sur la page 19, raison, option, c'est critère, c'est les mots de choix, de possibilité, de variété. Procédure, c'est lorsque tu racontes une histoire, tu dis comment ça s'est passé, tu dis que tu n'as pas choisi.
Okay.
Alors là, tu as donné un critère, donc je coche option.
D'accord.
Vous voyez? Ah, donc c'est sur la page. Vous voyez, je vous ai donné quand même une fiche de travail où vous pouvez tricher. Et c'est sur la page 19, parce que je suis sûre que vous n'avez pas encore mémorisé tous les indicateurs de tous les schémas. Pas encore.
Pas encore.
Pas encore. C'est pas encore acquis, n'est-ce pas? Donc, c'est un fiche de travail qui vous permet de tricher. Ça plaît à quel schéma, le fait de tricher? Ça va plaire à quel schéma?
Aux différents. Non,
options. Options. C'est parce qu'on casse des règles. Alors, je sais avec qui j'ai affaire, là, OK? Eh bien, au fur et à mesure que vous connaissez à fond, sans même regarder les indicateurs, ça va être de plus en plus facile. C'était votre première fois, donc c'est OK de tricher un peu quand même, n'est-ce pas? Et de regarder pour vérifier, n'est-ce pas?
C'est pour mieux.
J'étais même OK
deux ou trois fois.
Ah oui, à partir de ça, c'est plus OK de tricher. Bon.
Je ne veux pas plus ça tricher, mais c'est une aide.
C'est une aide, d'accord. Oui. Oh oui, c'est sûrement une aide, parce que c'est pas à moi de demander aux gens de tricher, quand même.
J'ai pas forcément triché, regarde.
Donc chacun le vit différemment, n'est-ce pas?
Dans le cas de Jean-Guillaume, tu dis ça s'imposait, en fait, il n'a pas été confronté à des choix, et donc tu considères que c'est un critère.
Quelle était la réponse au juste, Jean-Guillaume?
C'était ça qui
s'imposait. Il a dit c'est évident, c'est un critère. L'évidence est un critère pour Jean-Guillaume. Bien sûr, il ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais ce que j'écoute, est-ce qu'il me raconte une histoire où il dit... J'ai peut-être pas choisi, j'étais en train de travailler chez mon beau-frère, j'ai été congédié et puis j'ai fini dans ce job-là. Non, il m'a pas rencontré une procession d'événements. Il a dit, c'est évident, c'est son critère. Et je pourrais l'emmener face au mur et extraire plus de critères si je voulais, mais c'est tout ce qu'il a donné. Je sais pas. Et moi, c'était ma première partie de ma méthode et donc j'ai cru comprendre. Option, reste à vérifier. Je ne sais pas si j'ai raison. Bon, on va voir.
Et juste s'il avait dit, j'ai pas choisi, justement. Mais sans rentrer dans les détails, c'est un critère aussi?
Non, si on regarde sur la page 19 et on regarde sur raison, option, c'est marqué critère, choix, possibilité, variété. Est-ce que c'est ça? Non. Procédure, c'est histoire, comment j'ai pas choisi. Ok. Par exemple, quelqu'un qui dit « Pourquoi tu choisis ton travail actuel ?» La personne dit « J'ai été promue. » C'était une façon de dire que je n'ai pas choisi.
C'est le travail qui m'a choisi.
C'est le travail qui m'a choisi. Et par la suite, j'ai découvert que c'était ma mission. C'était le destin qui m'appelait. La situation s'était clarifiée tout d'un coup, mine de rien. Ah, miracle! Eh bien, on reviendra et on va faire des exercices déguisement linguistique cet après-midi. Pour que vous soyez irrésistibles. Ok, on va recommencer cet après-midi, on reprend. Je vous avais promis des exercices pratiques.
Oui.
Et donc, je vous invite à tourner à la page 2 dans votre dossier. La page 2, c'est ce qu'on appelle le langage d'influence ou bien le langage de persuasion pour chacun des schémas. Et là, vous voyez, on commence avec niveau, proactif, réactif, orientation, vert, éloigné. C'est très commode. Moi, j'ai des cadres qui se servent de cette page. Ils photocopient, ils le gardent dans la serviette ou sur leur bureau. Et lorsqu'ils ont quelqu'un à rencontrer, ils vont dire, je crois qu'il est plutôt procédure et un peu interne. Alors, je regarde pour justement se préparer mentalement. Et c'est exactement ça que j'aimerais faire maintenant, c'est un voyage, non pas dans le temps ou ni dans l'espace, mais un voyage dans les schémas. Et ça se passe de la manière suivante, parce que c'est très important d'avoir une certaine flexibilité là-dedans, n'est-ce pas? Et donc on va apprendre à parler des deux côtés de la bouche, de la manière suivante. Et à mon avis, c'est plus facile de faire ça lorsqu'on est debout. Donc je fais une démonstration, après vous allez faire ça dans les groupes de quatre. Alors, par exemple, dans un groupe de quatre, je vais dire à mes collègues, mettons, tu es dans mon groupe, Karim, je vais dire, ok, Karim, tu me parles en proactif-réactif. Alors, on choisit un sujet, disons, on va parler du sport, mettons. On va parler, tu connais quelque chose dans les sports?
Jogger.
Jogger, ok. Donc, toi, ton objectif, c'est de parler, alors, il y a deux manières de faire le langage de persuasion. Soit on parle comme si moi, je suis proactive, ou bien je parle comme si je veux m'assortir à ton schéma. Donc je parle à ou je parle de. Donc faut qu'on soit bien au clair là-dessus. Alors toi tu parles à comme si moi je suis proactive, ensuite tu changes comme si je suis réactive. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment faire? Donc moi je prends ta place. OK. Je dis bon, on va parler de jogging là. Alors Karim, faut pas attendre, il faut foncer, fonce, vas-y. Alors, attends pas, tu sautes là-dedans, tu commences. Parce que autrement, tu pourrais quand même te mettre à réfléchir et te demander quels sont les bénéfices éventuels de prendre en considération si oui ou non tu vas faire du jogging. Mais au fond, faut foncer, fonce, vas-y, vas-y. Vous voyez, j'ai fait les deux côtés. J'ai fait un sandwich même. Et donc, tu le fais et une fois que tu as fait ton tour, tes partenaires vont vérifier que tu as bien couvert les deux côtés. Et alors, c'est mon tour, alors je choisis quelqu'un d'autre et je dis, eh bien, alors maintenant, toi, tu as gagné un voyage dans l'orientation vers et éloigné. On parle toujours. Tout dépense payée, d'ailleurs. OK. Alors, mettons la prochaine personne, c'est Jean-Guillaume, il dit, OK, on parle toujours du jogging. Mais tu sais, quand tu fais du jogging, il y a beaucoup de bénéfices. T'aurais une meilleure forme physique, tu te sentiras mieux, tu vas atteindre tes objectifs en forme et d'ailleurs tu obtiens un meilleur aperçu de la vie. De toute façon, tu fais pas de jogging, tu vas te sentir déçu de toi-même parce que tu restes dans les mêmes conditions où t'es pas content et de toute façon, quand tu fais du jogging, t'auras pas à t'en occuper de fitness personnel parce que c'est déjà fait. Donc tu te débarrasses du problème de fitness. Alors, lui, il a dit, tout le monde dit oui, t'as couvert les deux côtés. Alors, on dit, ok, je donne un voyage à Véronique. Véronique, tu parles de jogging en externe et interne. Et là, la première, oh, est-ce que vous connaissez les blagues avions? Non, des blagues en poule.
Les blagues?
En poule. Non. C'est une vieille forme de blague qui vient des États-Unis. C'est toujours la même formule. Combien d'un X faut-il pour changer une ampoule? Vous savez, c'est des très vieilles blagues. C'était à l'origine combien de Californiens faut-il pour changer une ampoule? Alors, des gens de Californie, n'est-ce pas? Alors, il en faut 6. Un pour changer l'ampoule et les 5 autres pour partager l'expérience. Bon, il y a tout le monde est là-dedans. Combien de psychologues faut-il pour changer une ampoule? Seulement un. mais l'ampoule doit vraiment vouloir changer. Vous voyez le style? Ok. Alors, vous voyez, il y a toujours ça. Alors, combien de mères juives faut-il pour changer une ampoule? Combien de mères juives? T'en fais pas sortir, ne pense surtout pas à moi ici dans le noir tout seul, toute seule. Allez, amuse-toi, voir un film alors que je serai ici seule, dans le noir, souffrante. Mais pense surtout pas à moi. Alors, combien d'écologistes faut-il pour changer une ampoule? Ça peut marcher pour les mères catholiques aussi, me semble-t-il, hein? Bon, combien d'écologistes faut-il pour changer une ampoule? Ça prend 7 millions et 1. 1 pour tenir l'ampoule et 7 millions pour tourner la terre. Vous voyez, et ainsi de suite. Oh oui, combien d'ingénieurs faut-il pour changer une ampoule? Aucun, parce qu'ils ne peuvent pas suivre des instructions. Alors, combien de programmeurs de logiciels faut-il pour changer une ampoule? Là encore, aucun, parce que c'est un problème hardware.
Hardware.
Alors, revenant au profil lab, combien de gens ayant un schéma externe faut-il pour changer une ampoule? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je ne sais pas.
Combien de gens? Alors, ça, c'était une blague avion, je vois. Tu savais ce que c'est qu'une blague avion?
Non.
Ça passe au-dessus, voilà. Alors, parce que j'ai dit ça, il y a des gens qui... Ah, ouais, what? OK. Combien de gens ayant un schéma interne faut-il pour changer une ampoule?
Un seul.
Ben, ça n'a pas l'air d'avoir besoin d'être changé. C'est correct dans son état actuel. Blague avion, OK. Pas autre chose. Il y a des avions qui passent, OK. Bon, voyons. Alors, mettons, interne, externe, et on parle toujours du jogging.
Oui.
Tu sais, tout le monde fait du jogging, hein. T'es pas le seul. Quand tu fais du jogging, tout le monde va te regarder en admiration parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça, c'est le langage interne, externe. Langage d'influence externe. Alors, le plus externe que tu peux faire, c'est tu dis ce qu'il faut faire à la personne. Mais tu devrais faire du jogging. Ça, c'est langage externe, langage d'influence. C'est comme si je présume qu'elle est externe vis-à-vis de moi, et donc quand je lui dis quoi faire, elle va le faire. Alors, mais de toute façon, tu es le seul qui peut décider. Si oui ou non, toi, tu as envie de faire du jogging, ou tu évalues que ce serait une bonne chose, une bonne stratégie pour toi. Tu es le seul qui est en mesure de décider. Et moi, je te dis, c'est une bonne idée aussi. Langage externe encore. Là, tu vois, alors Véronique a dit, tiens, j'ai gagné. Tout le monde dit, oui, t'as couvert les deux côtés. Alors, elle tourne, elle va voir Michel. Elle dit, OK, Michel, là, tu fais option procédure sur le jogging. Alors, Michel a dit, imaginez les possibilités de tous les vêtements que tu peux acheter une fois que tu as une forme physique. C'est incroyable. On imagine ça. La variété de choix. Et de toute façon, si tu es en bonne forme, jamais tu as un problème, tu peux courir. Hein. C'est une possibilité. Langage de quel type?
Option.
De toute façon, de nos jours, il n'y a pas d'excuse pour ne pas être en forme. D'abord,
procédural.
Ensuite.
Et enfin. De plus.
OK. Alors, Michel a terminé. Elle a dit, bon, tout le monde vérifie qu'elle a bien fait les deux côtés de sa bouche. Elle a dit, d'accord. Corinne, mine de rien, t'es assis là, et donc c'est ton tour de faire facture de décision. Elle dit, c'est pareil qu'avant ou on fait différemment? Mais je crois que je pourrais quand même faire mieux que ça.
Oui.
Comme avant, on a toujours décidé de toute façon qu'il vaut mieux améliorer plutôt que de rester tout le temps sur la même chose. De toute façon, une petite peu de différence, ça fait pas de mal. Surtout si on s'applique à le fitness. Donc, vous voyez un peu le style. Donc, vous allez, chacun, vous allez avoir une chance pour pratiquer les deux côtés de la bouche. Donc, d'abord, voici la procédure. D'abord, en groupe de quatre, vous choisissez le sujet. Donc, on va parler du jogging. On va essayer de convaincre l'autre à faire du jogging. On va parler d'un restaurant. Je vais essayer de convaincre l'autre d'aller à un restaurant ou de faire ceci, de faire cela. Ensuite, on commence et chaque personne, elle prend une des catégories et qu'elle fait les deux côtés ou les quatre côtés quand il s'agit de facteurs de décision. Les autres, vous vérifiez qu'elle a bien utilisé le langage de persuasion venant des deux côtés. Ensuite, vous passez le bâton à quelqu'un d'autre. Je vais vous donner une quinzaine de minutes. Je dirais que vous avez intérêt à voir combien de fois vous pouvez faire le tournage et que vous changez de schéma. Parce que c'est un exercice d'aiguisement. OK? Donc, autant de pratiques que vous pouvez avoir, mieux c'est. D'accord ? Groupe de 4 et mettez-vous debout. Donc vous pouvez aller en bas ou rester ici et vous avez 15 minutes. Et question que je vous pose une question, c'est que est-ce que vous avez réussi à convaincre vos collègues de travail oui,
c'est
oui,
arrivé.
C'est arrivé. Par hasard comme ça ou vous vous êtes étonné vous-même. Vous pourriez nous donner l'exemple où ça a bien marché. Vas-y Véronique. Vous l'avez fait deux fois.
Le sujet, c'était le thème, c'était aller danser.
Ok.
On a été très convaincants.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à convaincre?
On est arrivé avec juste les petits mots comme ça, à être comme si ça venait naturellement.
Ah oui, d'accord. Et vous avez peut-être eu l'occasion de remarquer que vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'informations. Vous utilisez juste le schéma et ça marche pas et on voit tout de suite. N'est-ce pas, vous avez remarqué ça?
Oui, oui, je pense que le moment où j'étais convaincante, c'est justement le moment où j'ai réussi à utiliser juste
les mots clés là.
En rajoutant
une
sauce, le professeur qui dit canon. Hein,
donc à votre avis, est-ce que c'est bien nécessaire de rajouter la sauce? Métaphore de cuisine, alerte. Ou bien est-ce que les ingrédients principaux? Merci. Tu voyais, c'est pas évident dans sa langue seconde, hein? Ok. Et les ingrédients principaux étant les mots clés des schémas, est-ce que c'est ça qui? Est-ce que c'est suffisant? Mais la sauce, ça la rend plus savoureuse? Ah! Non, je pose la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Ben, si tu veux, je pense que s'appuyer sur les mots, sur la structure, et être forte sur la structure, ça permet après de s'en dégager et d'avoir une conversation.
Voilà, ok. Et les expériences que vous avez eues dans les autres groupes?
On rajoute en plus à le ton qui va avec, et à ce moment-là, à la limite, l'autre en face peut raconter n'importe quoi, s'il y a les bons mots et le ton, et c'est bon.
Oui, d'accord. Et donc, la recette? C'est les mots clés plus un ton adapté.
Et pas trop cuit.
Plus vers le saignant, n'est-ce pas?
Ça dépend des goûts.
Ou à point. Ok, voilà. Ouais.
Est-ce que je peux rajouter une petite expérience vécue? Je m'en suis aperçue là avec mes camarades. C'est que on a quand même un petit peu du mal à éviter ses propres projections.
Ah bon, attends, on a eu du mal à éviter ses propres projections. Est-ce que tu permets deux secondes que je décodifie ce que tu viens de dire? On a eu du mal à éviter mes propres projections. On est dans quel schéma?
Éloigné d'eux.
Ok, donc ça me donne déjà un indice d'où vient la question. D'accord? Ok, tu continues.
Et j'ai entendu ma camarade, après l'exercice que j'ai fait en externe, source externe-interne, me dire que le ton que j'avais adopté n'était pas congruent par rapport aux paroles.
Donc, ta camarade a fait cette réflexion-là.
Elle a fait cette réflexion, et je me suis dit que peut-être ça venait du fait que moi, à ce moment-là, j'étais pas dans le sens de lui faire de l'interne.
Je pourrais te donner ma réaction?
Oui.
Ce qu'on vient de faire, c'est quand même un exercice quelque peu artificiel.
Ouais, okay.
Donc, je te demande, parce que tu n'as pas encore mémorisé tous les langages de persuasion, n'est-ce pas? Pas encore.
Non, pas encore.
Ok, alors tu es là, tu regardes le vocabulaire, tu essaies d'avoir un sens quand même et de prendre des phrases à peu près qui signifient quelque chose. Je dirais, si tu as un ton adapté à point, alors vraiment bravo, hein, chapeau. Parce que c'est quand même un exercice d'entraînement et si jamais tu arrives dans ces conditions-là à avoir quelque chose de naturel, alors c'est bien. Parce que c'est la toute première fois que vous faites ça consciemment, n'est-ce pas?
Donc que le ton soit pas forcément adapté.
J'ai une petite suggestion. Si vous allez donner un feedback les uns vers les autres dans les exercices, ma suggestion, c'est que vous utilisez un langage de persuasion interne. Au lieu de dire, écoute, ton ton n'a pas été ce qu'il aurait dû être, parce que tu me dis ça à moi, même si tu as raison, je te donne pas raison. Parce que ça, c'est ça qui me provoque un état macho chez moi, c'est-à-dire interne, hyper interne. Et donc, c'est plus facile de recevoir un feedback si c'est un peu...
contourné.
Pas contourné, mais gentil, dans le sens que c'est une suggestion. Moi, j'ai eu l'impression que le ton que tu as utilisé n'était pas tout à fait assorti avec le message que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ça, c'est plutôt...
Je ne sais pas ce qu'elle a fait.
Elle l'a fait comme ça.
Mais c'est une, ok, c'est parfait, mais c'est une réflexion que je fais parce que c'est plus facile à digérer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Merci. Alors, je viens de faire la démonstration.
Oui.
J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est mon opinion. Alors, peut-être que ce n'est pas vrai pour vous, j'en sais rien. Ok? Tout est une démonstration. Je vous avais averti à l'avance, je vous rappelle. Bien, autre question, commentaire sur le langage de persuasion. Vous avez peut-être remarqué que vous ne faites pas une chose à la fois, n'est-ce pas?
En fonction de nos propres métaprogrammes, justement, on oriente, parce qu'en fait, par exemple, dans le « aller vers, éloigné d'eux », on a parfois des facilités. Si on est, nous, dans notre façon « aller vers », quand on passe en « éloigné d'eux », du coup, c'est comme si on disait « et de notre côté », là, par contre, ça ne va pas être terrible.
Ben oui. Et vous vous rendez compte de vos préférences, n'est-ce pas? C'est bien, ça vous donne un objectif à développer et une occasion à ne pas manquer. Bon, c'est moi qui vous le dis, mais c'est qu'une possibilité de le faire ça à la bonne manière. Vous voyez, donc, vous allez pouvoir développer votre vocabulaire. Oui, c'est vrai. D'autres questions, commentaires? All right. Alors, pourquoi je vous ai fait faire ça, à part le fait que c'est amusant et utile?
C'est amusant.
Oui, c'était amusant, au moins ça. Dans le minimum, dans le moindre des choses, il faut au moins que ça soit amusant. Et c'est parce que, justement, quand tu vas pour tester, il faut quand même avoir une certaine maîtrise du langage de persuasion, parce que c'est exactement par cette manière-là qu'on va tester la justesse de son travail en deux étapes. Donc, je vais inviter Fabien à venir ici devant. Et je vais vous démontrer comment on peut tester ce qu'on a pu dégager dans notre... Oui, emmène ta chaise, c'est ça. Donc, je vais vous inviter encore à vous asseoir à un endroit où vous nous voyez tous les deux. Et juste pour commencer, j'aimerais que tu couvres les oreilles juste un instant et à l'intérieur de ta tête, tu chantes. Oui, tu couvres les oreilles pour pas entendre ce que je vais dire et à l'intérieur de ta tête, tu chantes bon anniversaire à toi.
Oh, c'est bon.
Ok. Sans qu'ils sachent, juste pour les fins de notre démonstration, parfois je vais m'assortir à ce que j'ai cru entendre et parfois je vais faire le contraire pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand tu n'es pas exactement juste. Vous me suivez?
Oui.
Parce que j'aimerais que vous voyez quand tu tombes juste de quoi ça a l'air et quand tu es à côté, qu'est-ce que ça donne. OK? Happy birthday to you. You live in a zoo. C'est bon. OK. La surprise. Ah oui, là, il faut un cadeau, là.
Est-ce que Fabien, tu pourrais te rapprocher de...
Oui. Ça marche.
C'est mon jumeau méchant. J'ai un jumeau, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Il n'est pas tellement méchant. Bon, alors, on avait eu une discussion tout à l'heure, n'est-ce pas, sur ton travail d'accompagnement de porteurs de projets. Et là, je vais expliquer ce que je vais faire là au groupe. C'est que j'ai eu une fois pour poser des questions. Maintenant, on couvre les questions, on ne pose plus de questions. Quand on pose une question, la victime des questions, le sujet... Le client doit aller à l'intérieur de lui-même et chercher une réponse. On a fait ça une fois. Maintenant, on veut tester ses hypothèses. Et donc, on va apprendre à pondre des phrases en forme d'affirmation, mais avec un ton de question. OK? Je démontre. Alors, vous avez vu ce que j'ai remarqué, ce que j'ai marqué là derrière. Je le mets derrière pour que toi, tu... Je t'en fais pas. Et là, j'utilise le langage de persuasion. Et là, je vérifie mes hypothèses dans le contexte donné. Okay? J'encadre un peu pour vous voyez ce que je fais. Donc, Fabien, tu sais, j'ai l'impression que dans ton travail d'accompagnement de porteur de projet, tu aimes non seulement foncer, faire des choses et réfléchir en même temps et d'analyser ce que tu fais pour être sûr.
Oui,
Est-ce que ça c'est un oui-oui ou un oui-non?
Oui. Oui.
Oui. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Ah. C'est-à-dire que, en fait, ce qui te motive, c'est le fait que tu peux vraiment, faites-le, tu fais, tu fonces. Franchement, tu rentres dans le sujet.
Oui.
Tu passes pas ton temps à attendre qu'un miracle arrive.
Non, ça non.
Ça non. Fonce.
D'accord.
Alors, j'ai découvert quoi? Donc, c'est plutôt proactif. Alors, déjà, je peux corriger mon tir. Donc, au lieu de, que ça soit un point proactif, un point réactif, là, j'ai deux points proactifs. Ils viennent de vérifier ça. Parce que la première... Et la métaphore que j'utilise pour ça, c'est que quand tu offres le langage, et moi, j'ai fait des phrases. Tu aimes ceci. J'ai l'impression que tu préfères. Et là, je lui donne le langage de persuasion. C'est que la personne réagit face à ça. Si je lui pose une question, là, il doit aller à l'intérieur chercher la réponse. Ce n'est pas une vérification. Là, je veux sa réaction à mon hypothèse. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des phrases, mais non pas des phrases abruptes. Des phrases, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux que vous faites ceci, vous aimez cela. Okay? Parce qu'on ne veut pas que la personne se rende en macho et qu'il rejette mon hypothèse alors qu'elle aurait pu avoir. Et vous allez voir que la personne, elle vous montre par sa voix, par son hochement de tête, quand vous êtes sur la bonne piste et quand vous n'êtes pas sur la bonne piste, c'est aussi évident. Et moi, j'ai corrigé mon tir au lieu de dire que, ah bon, j'ai fait une erreur, oh là là, il y a une conséquence énorme de ça. J'ai dit tout simplement, oh, mais c'est pas ça, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Et j'ai repris. Okay? Donc même si vous avez tort, c'est pas la fin du monde, tu reprends et tu continues. D'accord, je continue. Okay, je m'entoure. Bon, dans ton travail d'accompagnement de porteurs de projets, il faut éviter vraiment que ces gens-là font les mêmes erreurs et qu'ils tombent dans les pièges d'entrepreneurs, parce que justement, quand ils ont des buts à atteindre et des objectifs, ça vaut beaucoup mieux.
Oui, oui, il faut. C'est l'intérêt de notre rôle à nous, c'est justement en multipliant les expériences des différents, faire passer certains modèles de fil en aiguille. Quoi. C'est pas la peine que quelqu'un tombe dans le même piège que celui qu'on a vu juste avant, si on peut l'éviter ça.
D'accord, qu'est-ce qu'on a eu là? Une confirmation, c'est à peu près au milieu, égal, aller vers, éloigné. Parce qu'il m'a répété le même schéma. Il a parlé aller vers parce que c'est pas la peine de. Et alors, c'est à peu près au milieu. OK. De toute façon, ce qui est important pour toi dans ton travail d'accompagnement de porteurs de projets, c'est qu'il faut que tu sois vraiment au courant de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que il y a beaucoup de jugements que tu dois porter toi-même sur le sujet. Ah bon? Et si le client n'est pas content du travail que tu fais, ça, vraiment, ça ne vaut rien.
Ah oui, ça ne veut pas ça. Oui, s'il n'est pas content, ça va.
Alors, qu'est-ce que j'ai testé? Voilà. Et là, moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, j'ai fait seulement interne. J'ai vu la réaction. Ensuite, j'ai fait seulement externe. Mais je ne suis pas encore entièrement convaincue. Parce que moi, je suis quand même un être sceptique dans les intérêts de mes clients. Alors, j'ai l'impression quand même, dans ton travail d'accompagnement, truc de porteur de projet, machin,
ouais.
Ok. Dans ton travail d'accompagnement de porteur de projet, oui, vous soyez certain que vous pouvez prononcer le contexte, parce que sinon vous avez des ennuis, hein. Dans ton travail d'accompagnement de porteur de projet, il est important que toi, tu aies une idée si ça marche, ça marche pas. Mais c'est pas uniquement ça qui compte. Le client aussi doit pouvoir savoir pour lui-même que le travail que vous faites ensemble, c'est porteur de fruits pour lui. Et donc, vous êtes tous les deux à juger ensemble et à part toi-même, ton côté, et lui de son côté.
C'est une validation du groupe, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on fait le programme ensemble et on constate le résultat ensemble.
Et à part égale.
Oui, c'est-à-dire, oui, lui, il doit avoir une satisfaction, donc ça, je dois le constater, c'est-à-dire que lui, il va vers un état meilleur par rapport à son projet, et moi, je dois, pour moi, me rendre compte que la méthode qu'on a mis en place sur ce projet-là est bonne et elle peut être transférée à un autre.
Ok. Moi, je dirais c'est plutôt au milieu. Hein. Et est-ce que vous avez vu les mains de Fabien? Alors, à l'extérieur, il manifeste l'extérieur. Ensuite, il se pointe du doigt. Il se pointe du doigt en indiquant où se trouve la décision. Ok. Donc, pour lui, c'est moitié-moitié interne-externe. Et quant à ton travail d'accompagnement de porteur de projet, bon, c'est très important de choisir une variété de possibilités de travail, parce que c'est pas uniquement la même formule qui marche tout le temps. Alors il faut avoir une variété de façons de faire, et s'il y a quelque chose qui marche pas, bon, on trouve un autre moyen.
Mmh. Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. La méthode est plus ou moins la même, mais il faut arriver à. Il n'y a pas une recette par dossier, et il faut faire preuve de souplesse et d'adaptabilité en fonction de chaque projet.
Ok, on a compté combien, c'est quoi là la majorité? C'est plutôt option, mais j'ai entendu un mot, deux mots de méthodo, là il y en avait un et demi. Donc moi je lui donne deux options, une procédure, un point procédure.
Parce qu'il y a une méthodologie de gestion de projet, quoi qu'il arrive. Mais voilà. Après, il faut un panache de...
C'est un patron, voilà, quoi. Donc c'est plutôt procédure. Il y a de la musique qui sonne. La 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 la. Je continue? Eh bien, dans ton travail d'accompagnement de porteurs de projets, chaque projet, c'est à peu près la même chose. Tu vois, une fois que tu as vu comment ça doit dérouler, c'est à peu près à chaque fois. Bon, c'est pas exactement pareil, mais presque.
Non, c'est pas pareil.
Ah bon?
Non.
C'est pas ça. Vous voyez, vous dites tout et n'importe quoi. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de prendre conscience du type de langage dont vous vous servez. Et là, vous lisez la réponse, elle est claire. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. Je me suis trompée. En fait, chaque projet a ses différences. Il y a des points communs, mais chaque projet, chaque porteur de projet est différent. Ils ont des défis différents. Il y a des similitudes dans les méthodologies, j'imagine, mais en fin de compte, chaque personne est différente. Et donc...
Tout à fait. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Je peux avoir affaire à quelqu'un qui est de la techno, quelqu'un qui est du marché, mais qui ne connaît pas le marché, quelqu'un qui est du marché, mais qui ne connaît pas la techno. L'équipe n'est pas constituée, donc on ne dit pas les mêmes choses. On ne dit pas la même chose à une personne qui a 22 ans qu'à une personne qui en a 65. Donc, tout est différent, quoi. Après, par contre, évidemment, il y a des étapes évidentes qu'on commence à repérer. On valide d'abord ça, on valide d'abord ça, mais on aborde. Voilà.
Je t'en prie. Eh oui. Et donc, en gros, chaque personne est différente.
Totalement.
En plus, il y a des similitudes dans ce que tu fais, mais en gros, c'est différent.
Oui, oui, oui. Il faut refaire le travail d'analyse à chaque fois, quoi. À chaque fois.
À chaque fois. Ok. Donc ça, moi j'ai compté 3 à 1. 3 différences, une pareille avec exception. Voulez-vous que je vérifie ça encore une fois? Ok. Je compte chaque phrase ou chaque mot. Alors, moi j'ai tout le temps les doigts en l'air, hein, imaginairement. Donc je dis, de toute façon, en gros, le travail d'accompagnement de porteur de projet, à chaque fois que tu vas travailler avec quelqu'un, c'est différent. En plus... Pareil avec exception, plus c'est pareil avec exception. Il peut avoir des similitudes, mais en gros, chaque personne est différente, les projets sont différents, la situation est différente de la personne, et en dépit du fait qu'il peut avoir des similitudes, il y a beaucoup plus de différences. Ah.
Il y a beaucoup plus... Non, il n'y a pas beaucoup... Non, non, enfin, voilà, c'est dur, là.
Mais dis-moi ce que c'est, alors.
On va être obligé de faire passer le projet par des étapes clés évidentes. Valider la techno, valider le marché, des choses comme ça.
Et voilà, il y a une méthode à suivre quand même.
Une méthode à suivre. Mais après, chaque fois que le projet arrive, j'ai envie de dire, il est immature quelque part. Sinon, il n'a pas besoin de nous. S'il est bordé de tous les côtés, il n'a pas besoin d'être accompagné. Nous, on va l'aider, on va faire un état des lieux et on va l'aider à remplir les différentes étapes. Et qui sont d'un projet à l'autre, on ne peut pas... Ça colle pas, quoi. C'est jamais le même défi.
Une photo,
voilà. D'accord. Une photo, c'est jamais la même photo, c'est jamais les mêmes étapes, c'est pas forcément les mêmes outils qu'il faut utiliser, c'est pas donc c'est, bon, c'est
ça. Et donc arrive, tout ça, ce sont des différences parce que voilà. C'est pas le même à chaque
voilà,
fois.
Voilà. Mais après, en termes de mode de réflexion, c'est le même, je vais leur mettre méthodo d'analyse de projet, quoi. La gestion de projet.
Et donc en fait, tu as une méthode avec des variations, voilà, bien sûr, parce
que j'applique à des cas très variés.
À des cas variés, et donc il y a...
Je suis incapable de te décrire la méthode, parce que et interne, quoi.
Ok. Là, on est revenu sur la procédure option. Oui. Oui. Méthode avec variété, c'est option procédure. Donc, j'aimerais, sans trop te casser les pieds, je te casse les pieds avec plaisir. Ok. Victime de torture idéale, ouais. Ça lui fait, procure un plaisir, voilà, ok. Alors, c'est juste pour vérifier le poids relatif entre différence et pareil avec exception. Et parce que bon, il y a une similitude dans la méthode, mm-hmm. mais en fait, quant aux personnes, chaque personne est différente, mm-hmm. c'est ça mm-hmm. Attention, il y a deux contextes là. Le contexte de la méthode, c'est un sous-contexte, un mini-contexte. Et que les personnes sont différentes, chacun, mais il y a une similitude dans la méthode. Donc, je vois qu'il y a, ces deux choses à part. La personne, les personnes, les porteurs de projet et la méthode que tu vas utiliser.
Donc, la méthode crée l'expérience de l'accompagnement, en fait.
Voilà.
C'est ça qui crée l'expertise. Voilà. Après, la personne est différente, mais son projet est différent aussi.
Et le projet est différent. Donc, non seulement les personnes sont différentes, les projets...
Les propriétés sont différentes.
Ouais. Et comment est-ce que tu peux savoir que quelqu'un a changé de contexte ou il n'y a que deux contextes lorsque quelqu'un commence à dire « mais ça dépend ». Ça veut dire qu'il y a deux choses différentes, deux contextes différents. Et la définition de contexte, c'est où, quand, avec qui et une verbe. C'est comme ça qu'une personne va démarquer que c'est un contexte. Et bon, on a compris, de toute façon, si on n'a rien compris, tout ce qu'on pourrait comprendre là-dedans, c'est qu'il y a un mélange, Fabien, un mélange, dans le contexte d'accompagnement de porteurs de projet, il y a un mélange de pareil avec exception et différence. Donc si moi je veux l'influencer, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, si je veux bien comprendre. Alors moi, je vous ai emmené à un détail ou à un niveau de complexité un peu plus forte. Mais même ça, c'est pas nécessaire. On a tout le monde, vous avez entendu les mots différence et les mots pareil avec exception. C'est uniquement ça qui vous suffit. Donc maintenant, on a le profil de Fabien qu'on a testé en utilisant les phrases avec un regard de question, de curiosité et un ton de question. Donc la chose à faire, c'est rappeler la personne du contexte. Bon, dans ton contexte professionnel, dans ton contexte de formatrice, quand tu travailles en tant que formatrice, ce que tu aimes, c'est vraiment sauter à l'action et ou bien réfléchir, etc. Donc, tu utilises les mots comme ça. Chaque fois, donc la formule, c'est rappel de contexte, j'ai l'impression que tu aimes ou que tu préfères. Et ensuite, vous prenez exactement les termes sur la page de langage influence. Et vous attendez la réaction. Et que si ce n'est pas la juste, vous dites, c'est pas ça que je voulais dire. Ok. Y a-t-il des questions dans la méthodologie du testing? Oui, Jean-Guillaume.
Par rapport à ce que j'ai entendu, au niveau des facteurs de décision, bon, pareil, faire une différence, j'ai bien entendu. Maintenant, pour moi, il ne serait pas pareil avec exception, mais pareil avec exception et différence.
Pour moi, ça m'est égal, c'est les deux. Il y avait différence et pareil avec exception. Et ça suffit, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Moi, avec mon expérience, j'ai pu entendre qu'il y avait deux contextes, mais même ces deux contextes s'inscrivent au grand contexte de son travail d'accompagnement de porteur de projet.
C'est difficile à dissocier.
Bah, alors, le problème, c'est que quand est-ce que ça suffit? Et quand est-ce qu'on tombe dans le pinaillement? C'est un mot, ça? Et quand tu as suffisamment d'informations pour pouvoir travailler, tu t'arrêtes. Voilà, c'est tout. Autre question de la méthodologie. Oui, vas-y, François.
Une fois que tu as collecté toutes ces informations sur...
Fabien. Est-ce que tu peux parler plus fort pour l'enregistrement?
Quand tu as recueilli toutes ces informations et que tu les as vérifiées.
Oui. Qu'est-ce qu'on en fait?
Voilà. Qu'est-ce que tu fais de cette analyse-là dans le quotidien?
Ok, dans mon cas, je fais beaucoup de coaching. Donc j'ai un prétexte merveilleux, je dis, vous voulez faire du coaching avec moi? La première étape, parce que les gens sont très rassurés, si toi en tant que coach, tu as une procédure, indice, c'est qu'on va faire un outil qui va te permettre de mieux comprendre ta motivation et ton mode de fonctionnement dans ton travail. Donc je fais toutes les questions, celles qu'on a faites et celles qu'on n'a pas faites pour les... caractéristiques du fonctionnement. Je ne dis pas à mon client que je devine, ensuite je teste, parce que ça peut nuire à ma crédibilité. Je lui dis que c'est la méthode qu'on utilise. Voilà, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, je vais lui poser des questions et je dis, bon, alors, justement, ce que j'ai trouvé, que dans ton travail, non seulement tu aimes réfléchir, vraiment, tu aimes foncer et passer à l'action et vraiment, tu n'attends pas. Mm-hmm. Et là, je confirme et la personne dit, oui, c'est merveilleux, c'est incroyable, comment tu peux tout savoir? Et je dis, oui, quand tu as des outils efficaces, eh bien, et bon, et tu continues, mais ça te donne quand même. Donc, ça, c'est une utilisation. Souvent, les cadres vont faire les profils des employés pour mieux comprendre. Et à mon avis, tu as intérêt à demander permission, parce que je sais qu'il y a des entreprises ou il y a des milieux où il y a un manque de confiance. Et les gens n'ont pas envie que tu connaisses leur profil. Ça peut arriver. Donc, à mon avis, il faut établir quand même un certain niveau de rapport et d'avoir en tout temps la permission. J'aimerais vous connaître et qu'on se comprend mieux sur le niveau de la motivation. J'ai appris un outil qui va nous permettre à mieux travailler ensemble. Est-ce que vous me donnez votre permission de le faire avec vous? Et donc ça, c'est utile. Quand tu vas pour le recrutement, et je sais, Françoise, tu t'en sers. Comment est-ce que tu te sers de la profil pour le recrutement?
Les personnes et je leur demande s'ils sont d'accord. En général, ils sont toujours d'accord. Ils sont même étonnés et curieux de ce niveau de questionnement et de retrouver ceux qui sont de s'y retrouver après.
Oui, d'accord.
Oui, parce qu'après, je leur fais une restitution.
Après, tu.
Je leur fais une restitution.
Oui, oui. Et d'ailleurs, quant au recrutement, c'est très, très. Il y a un procédé dans le livre Le plein pouvoir des mots qui te permet, la section application, comment faire une analyse de poste pour savoir quels sont les schémas dont tu as besoin, comment écrire une publicité qui appelle seulement les personnes ayant les bons schémas, et ensuite tu poses les questions pour vérifier. Suffisant pour un processus de recrutement parce qu'il faut déjà trier pour le niveau de connaissances et les compétences. Mais c'est pour savoir s'il y a vraiment un assortissant entre le travail et l'entreprise et la personne, ça c'est merveilleux. Et tu peux réduire les coûts de recrutement parce que tu élimines, quand tu utilises par exemple le langage de persuasion assorti, il y a tout un paquet de monde qui ne sont pas attirés par la poste. Et donc, tu n'as pas à trier des gens qui ne vont pas aller. Donc, ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. Ça, c'est une autre utilisation. Je te remercie beaucoup, Fabien. Et maintenant, est-ce que tout le monde a son propre profil que vous avez fait avant ce matin, plus tôt, là? Prenez votre propre profil avec votre information dessus. Donc, c'est marqué « nom » et ton nom. Ok, tout le monde a son propre profil. Vérifie. Mais alors, c'est le moment. Parce que maintenant, une fois que vous avez votre propre profil.
Le profil de l'autre.
Non, pas le profil de l'autre. Tu le reprends, tu le donnes à lui, tu prends ton propre profil. Ok, c'est bon. Attendez, excusez-moi, vous avez votre propre profil. Maintenant, vous allez trouver quelqu'un d'autre pour le vérifier. Quelqu'un qui n'a aucun enjeu à avoir raison ou à tort et qui va suivre les cauchemars que votre partenaire a fait et qui va tester. D'accord? Donc, vous allez échanger de profil et vous avez, mettons, 15 minutes chacun pour faire le testing. Allez-y. Alors, vous venez de prendre le profil de quelqu'un d'autre et de le tester. Et alors, j'ouvre mes yeux de médium et je prédis que c'était un défi de pondre des phrases au lieu de poser des questions. Est-ce que j'ai raison? Je suis clairvoyante, n'est-ce pas? On a l'habitude de poser des questions. Mais est-ce que vous avez pu remarquer ce qui se passe quand vous posez des questions? La personne disparaît quelque part à l'intérieur d'elle-même. Elle cherche une réponse. Mais ça, ce n'est pas un testing. Alors, à mon avis, une des façons plus faciles de faire en sorte qu'on ponde des phrases, c'est d'avoir les bouts de phrase déjà dans sa poche.
Ouais.
J'ai l'impression que. Alors, tu finis avec une phrase. Il me semble que. Tu finis avec une phrase. Donc vous avez intérêt à avoir les petits bouts de phrase comme ça. Vous me donnez l'impression que.
C'est bien pratique.
C'est bien pratique. Moi, je suis paresseuse. Si je n'ai pas des petits outils qui rendent plus facile la vie, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je veux surtout éviter d'avoir trop de boulot à faire en même temps. Parce qu'il y a des choses à jongler. Déjà, avec toutes les choses que vous avez à faire dans la vie, pourquoi compliquer la vie? Alors, c'est pour ça que j'ai des petits outils que je sors comme ça, déjà toutes faites. Ça, c'était éloigneur, procédure, parce que je ne veux pas avoir trop de choses à réfléchir et donc j'ai une méthodologie. Donc, si vous voulez raccourcir un apprentissage, prenez une méthode. Donc, une formule. Ça, c'est beaucoup plus facile que de jongler avec 5-6 options. Ça, c'est aussi générique sur l'apprentissage. Quand tu apprends quelque chose, normalement, il y a une procédure d'apprentissage. C'est plus court que de jongler avec beaucoup d'options à la fois. Okay. Quand vous êtes arrivé à pondre une phrase pour votre partenaire, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le résultat de ça? Comment ça s'est passé?
Moi, en tant que sujet, je trouvais que c'est assez impressionnant parce que d'abord, bon, j'ai retrouvé un peu les sensations qu'on a eues le premier jour. Hein. Donc avec la motivation qui va croissant, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et,
donc lorsque la personne a tapé juste, tu as senti ce genre de quelque chose qui s'ouvre. Okay.
Et donc comme le profil avait été très bien fait, Laurent m'a donné l'impression de connaître très bien le contexte de mon travail alors qu'il ne savait rien du tout.
Et c'est pas lui qui avait fait le profil à l'origine, il bricole avec ça et il paraît qu'il te connaît très bien.
Voilà, donc
t'as bien fait.
C'est un outil de voyance très...
De voyance, voilà, alors c'est pour ça qu'on devient tous médiums, on peut prédire l'avenir et le passé et le présent, voilà, c'est très bien. Donc pour toi en tant que sujet, oui. Lorsque la personne a tapé juste dans le langage de persuasion, ça a créé...
Ça crée une motivation et puis la motivation elle s'amplifie au fur et à mesure des questions, okay. S'il fait un sans faute et puis je suis terminé, oui, je suis bien à ma place.
Et vous avez remarqué ça aussi quand la personne a tapé juste, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe quand la personne elle vous sort quelque chose et que ça ne vous va pas tout à fait? Rapide, immédiat? Ok, quand vous êtes la personne qui offre le langage, est-ce que c'est visible, audible quand ça ne marche pas? Bon, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir raison du premier coup. N'est-ce pas? Tu fais quelque chose, tu vois le résultat et tu dis, bon, ce n'est pas exactement ça que je voulais dire. Et ça passe très bien. Non seulement ça fait un bon joke, une blague, mais ça marche. Et c'est en douceur, c'est-à-dire qu'on prend conscience. Et d'ailleurs, on appelle ça, quand on offre quelque chose, c'est beaucoup plus puissant, parce qu'on voit la réaction tout de suite. Et d'ailleurs, c'est une façon de... Moi, je me sers de ça beaucoup plus souvent maintenant que l'ancrage. Tu sais, dans la technique d'ancrage en PNL, où on essaie de que la personne trouve une situation de ressources. C'est-à-dire que on lui demande, est-ce que tu peux penser à un moment où tu as senti vraiment à la pointe et alerte et intelligente? Alors que si moi, je suis dans un moment de difficulté et tu me demandes de chercher un moment où j'ai été intelligente, je vais te dire, mais écoute, j'ai jamais été intelligente de ma vie. Parce que je me sens mal à ce moment-là. Alors pourquoi poser la question? Vaut-il pas mieux à ce moment-là de dire, pense à un moment où tu étais vraiment intelligente? Donc je ne donne pas le choix d'avoir un échec. Et donc c'est cette offre qui, je trouve, qui est très puissante. Et moi, j'en suis venue à la conclusion que c'est que parfois on obtient beaucoup plus d'informations riches sans poser de questions. On offre. Voulez-vous une démonstration de ça? Mettons, j'ai envie de vous connaître. Je dis, mettons, ok, Rosie, on joue ensemble. J'ai dit, mais dans ton travail en marketing que tu fais, il doit y avoir des défis très intéressants.
Des filles?
Pas des filles, des défis. Ah, ben oui. Je me suis rendu compte que, bon, il y a quelque chose dans mon... C'est toujours quelque chose dans mon français, bon. Ça m'a... Tu sais, Rosie, tu fais un travail dans le marketing, n'est-ce pas? Et bon, qu'il y a des défis intéressants.
Ah oui, extrêmement intéressants.
Et que c'est toujours un mélange de gens et de produits. Comment...
C'est... Ben oui, c'est de nouveaux produits.
ça, de nouveaux développements. Ça peut être
des nouveaux développements. Ah bon?
Nouveaux clients.
Nouveaux clients.
Nouveaux clients, nouveaux développements, nouveaux secteurs.
Nouveaux secteurs.
D'activité, oui.
Voilà. Qu'est-ce que je viens de savoir sur Rosie alors?
Qu'elle aime
des différences. Ok, à moi, j'en savais rien. Moi, j'ai proposé quelque chose et je regardais et avec un regard d'attente. Et là, tu m'as rempli les blancs. Alors, tu peux dire tout et n'importe quoi, tu l'offres et la personne réagit, tu obtiens plein d'informations. C'est pas quoi? Oui, voilà. Alors, si tu parles d'une manière plus ou moins claire, tu auras des informations plus ou moins claires. Ou quand tu as un regard un peu confus, diffus de la personne, d'habitude, si je le fais en français, je sais qu'il y a une lapsus linguistique quelque part. Mais bon, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions sur le testing des caractéristiques de motivation ou des commentaires? Oui, vas-y.
Juste par rapport aux critères.
Critères.
J'ai eu un peu de mal à m'en souvenir.
Alors, les critères, en fait... Tu demandes, au début, à l'origine, phase devinée, tu dis qu'est-ce qui est important pour toi ou que veux-tu dans ton travail. Alors, tu écris, mais il n'y a rien à tester. Les critères sont les critères. Donc, je veux un défi, je veux que ça soit intéressant, je veux travailler avec des gens bien. Bon, c'est tout.
C'est tout, hein, oui, ça.
Voilà. Dans le livre « Le plein pouvoir des mots » et dans des programmes de maître praticien, on vous apprend à faire une hiérarchie des critères. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui a du mal à prendre les décisions, tu peux l'aider en faisant ce qu'on appelle une hiérarchie des critères. Et la technique est dans le livre et c'est aussi appris lors du maître praticien. Donc, c'est dans le livre « Le plein pouvoir des mots » avec un exemple à suivre. Okay. Là, par ça, il n'y a pas de testing à faire.
Par rapport à cet exercice-là, en fait, il était nécessaire de reposer quelques questions, de remettre le contexte. Enfin, en tout cas, j'ai été...
C'est-à-dire, tu as cru que c'était nécessaire de reposer des questions?
Ben, non, mais je n'ai pas reposé des questions, pas toujours. À certains moments, oui, j'ai été obligée de reposer des questions pour en savoir plus, pour valider, en fait, pour tester. Mais au départ, j'ai remis le contexte pour être sûre que...
Tu sais, chaque fois, je reprends le contexte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me donner son profil? Je fais une démonstration. Parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire de poser des questions. Est-ce que je peux faire le tien? C'est toi, Nathalie, donc. Je prie pour ne pas faire de questions. Alors, le contexte, c'est... Insertion professionnelle pour adultes, c'est ça le contexte? Écoute, Nathalie, quand tu travailles dans l'insertion des professionnels pour adultes, là je regarde un peu, il y a une variété de possibilités sur comment tu fais ton travail.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que je viens de vérifier? Option. Ok, je prends un autre. Dans ton travail, Nathalie, tu vois, à chaque fois je refais, la seule chose que tu as à bien lire, c'est le contexte et peut-être les critères. Oui, ouais. Tu sais, quant à l'insertion professionnelle pour adultes, Nathalie, pour toi, l'important, la variété, diversité est importante pour toi parmi autres choses. Et de toute façon, c'est quelque chose que tu fais, tu trouves des moyens pour améliorer et d'aller de mieux en mieux dans ce que tu fais aussi pour le changer de temps en temps aussi. Qu'est-ce que je viens de vérifier, moi? Voilà. Alors, je bricole. J'ai aucune idée de quoi vous avez discuté. J'ai quelques critères et comme toi, tu as dit tout à l'heure, Karim, tu peux vérifier le travail que tu n'as pas fait. Tout de manière conversationnelle. Donc, j'ai fait des phrases en forme d'affirmation.
Donc, un pli. Plan local pour l'insertion et l'emploi. Sur la ligne? Non, Marine.
En fait, j'ai plus de difficultés avec le facteur de décision.
Ok. Veux-tu que j'en fasse une démonstration de ça pour les facteurs de décision? À chaque fois, souvenez-vous, ce sont des caractéristiques de motivation. Donc, c'est ce qui motive la personne. Donc, les phrases à commencer, c'est « j'ai l'impression que tu aimes, tu préfères, ce qui te motive ». Donc, je prends Laurent, par exemple. Quel était le contexte pour toi, ton profil?
Étudiant PNL.
Ok, donc quand il s'agit d'être étudiant en PNL, toi tu adores avoir les choses différentes à chaque fois que tu viens étudier. Ok. Et de toute façon, tu te rends compte que une des choses qui te motive là-dedans, c'est le fait que tu peux améliorer ce que tu fais. Améliorer. Donc, il fait les deux. Ou, je vérifie une autre fois, disons, en tant qu'étudiant de PNL, une chose qui te plaît. Donc, j'ai une variété d'expressions pour la motivation. Ce que tu préfères, ce qui te plaît, ce qui te motive. J'ai l'impression que tu aimes ça en tant qu'étudiant de PNL, quand c'est tout le temps pareil. Alors, tu peux compter là-dessus. Il y a une égalité, il y a vraiment une familiarité avec ce que tu savais déjà. Ok, si tu veux. Bon, tu viens de perdre toute ta crédibilité. Alors je dirais, si ça, disons, tu sais, tu pratiques dans les conversations de tous les jours. Tu prends une hypothèse sur quelqu'un et tu l'offres. J'ai l'impression, tu aimes les films un peu étranges là, différents des autres. Non, pas tellement. J'aime les films qui ont une histoire qui suit, qui est bien logique, là. Non. Ouais. Ok. Ah bon. J'ai l'impression que, Nathalie, pour les films, tu sais au fond de toi-même ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a recommandé quelque chose que ça va nécessairement te plaire.
Ouais.
Ok, voilà. Alors, je fais des hypothèses, je continue, et bon, voilà. On finit par taper juste ou pas taper juste, mais tu peux pratiquer cette compétence. Mais vous vous rendez compte que c'est une compétence à maîtriser.
Est-ce qu'on peut dire, et peut-être aussi que, c'est-à-dire...
Et peut-être aussi que...
Voilà, c'est-à-dire que si on a fait, par exemple, du verre, et alors la personne est sur le verre, et puis peut-être aussi que c'est pour t'éloigner d'eux, et là, elle va dire non, ou elle va dire oui.
Oui, tu essaies et tu vois la réaction. Ça. Mais l'idée, ce que tu as fait, c'est en phrase et non pas en question. C'est ça, c'est bien. Voilà. Donc, oui. C'est une possibilité. Ok. C'est une option. Ben oui, hein, c'est une option. En fait, c'est pas nécessaire, mais c'est une possibilité.
D'accord.
Ok, et bon, voilà. Et tu le fais si tu veux. Tu es le seul à décider de ce que tu veux faire. Mais je recommande aussi. Bon, pour passer à autre chose, et parce que de toute façon, on peut réfléchir à plein de choses, et c'est dans l'action que ça compte, n'est-ce pas? Et que de toute façon, on veut éviter à faire les mêmes erreurs tout le temps, pour qu'on puisse aller plus vite vers ses objectifs. Du moins, c'est ce que je pense moi, c'est à vous de décider pour vous-même si c'est important. De toute façon, vous serez beaucoup plus apprécié si vous allez plus vers vos objectifs au lieu de tourner en rond dans les problèmes. C'est une façon de faire parmi d'autres et c'est la bonne. Ça a toujours été pareil comme ça, mais mieux ou différent. Et si on prenait la pause?
Oui, parce que là,
parce qu'il y a juste un facteur décision que j'ai du mal à repérer, c'est pareil avec exception et différence. Ouais. Tu pourrais nous construire une phrase?
Alors, construire une phrase, ça vous intéresse deux secondes, une phrase. Tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire que non seulement tu aimes ça dans ton travail quand c'est mieux, tu aimes ça quand ça change aussi. Tu aimes que ça soit mieux et différent. Tu n'as pas besoin de bricoler une phrase très compliquée. Mieux et différent, ça suffit. Et tu peux même faire les mais si tu veux. Tu veux que ça soit différent, mais mieux. Tu vois, on n'a pas besoin de... Disons, on a envie de compliquer les choses. Différent, mais mieux.
Et mieux.
Tu peux... Alors, si tu as la personne qui préfère et que mais, bon, tu t'adaptes. Dans ton cas, c'est et mieux. Différent et mieux, ok?
En fait, plus on veut rajouter du contenu, plus on risque de s'égarer.
Ben oui, tu sais, moi j'essaie de simplifier, voilà, j'ai mis quelques mots clés, vous faites ça et ça marche. Corinne, on n'a pas réussi à prendre notre pause, hein. Bon.
Quand on est face à une équipe, pour la motiver, donc il va falloir que c'est différent.
Je dirais au niveau de l'équipe, il y a deux choses qui arrivent, c'est que l'équipe aura sa propre culture. Et tu peux parler des deux côtés de ta bouche pour être sûr que tous les individus se sont comprises.
Bah, ici, on a par exemple qui vont se jeter sur le pareil et d'autres sur la différence.
Oui. Si tu peux peut-être croire que ce serait difficile, mais une autre possibilité là aussi. c'est que souvent les gens vont entendre ce qui leur convient à eux. Hier, j'avais parlé du fait qu'il y a des gens qui s'en vont. Tu peux cogner, mais il n'y a personne à la maison. Et donc, ça a toujours été le cas. En plus, démonstration, ça a toujours été le cas. En plus, ce qui est différent, c'est que chacun entend ce qu'il a envie d'entendre et pas le reste. Donc, si tu passes une demi-heure de temps dans un langage qui n'est pas le langage de certaines personnes, oui, bien sûr, ils vont être partis longtemps. Mais pourvu que de temps en temps, tu utilises le langage qui va motiver quelqu'un ou les personnes, ça suffit. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Presque. Et maintenant, on prend la pause? Ok, c'est bon.